Bonjour la vie, ce matin on va un petit peu se promener, dans les forêts avec nos invités, le groupement forestier citoyen écologique Les Feuillus de la Duble, réunit des personnes de tous horizons soucieux de préserver votre forêt traditionnelle. Alors, je vais d'abord dire bonjour à tout le monde, bonjour à nos auditeurs, bonjour à Christian qui nous accompagne.
Bonjour Natacha.
À la console technique et puis bonjour à mes invités qui vont se présenter.
Eh bien bonjour, donc je suis Pascale Moulet, une des co-gérantes et co-fondatrices de ce groupement forestier. On va vous expliquer au cours de l'émission comment ça fonctionne.
Et moi je suis Xavier Svan, un autre co-président, co-gérant.
Alors vous étiez déjà venu il y a quelques temps, une bonne année passée, et vous nous aviez déjà parlé de ces choses intéressantes donc, que vous faites à la recherche de toujours de choses pour pouvoir... L'objectif, en fait, c'est d'acheter en commun des parcelles de forêt en vue de les gérer durablement dans l'intérêt général. Alors là, vous allez pouvoir développer un petit peu.
Voilà, c'est tout à fait ça. C'est vrai qu'on a monté ce groupement forestier pour éviter de voir les coupes rases gagner du terrain. Alors on se rend bien compte qu'à notre petite échelle... On aura une petite action, mais quand même, ça nous paraissait important parce que ça permet aussi de sensibiliser nos concitoyens à cette question-là et qu'on était assez désolés de voir, la Duble se transformer avec beaucoup de coupes de feuillus et remplacées par des résineux. Donc, on a décidé de lancer ce groupement forestier. Nous avons commencé à trois associés éco-gérants en 2023. Et aujourd'hui, donc juin 2026, nous sommes 60 associés. De 20 à 88 ans, ce qui est quand même intéressant parce qu'on a des jeunes et puis des plus anciens. Et vraiment, l'objectif, c'est d'acheter des forêts pour les préserver tout en coupant du bois. On n'est pas contre la coupe de bois parce qu'on est tout à fait conscient qu'on en a besoin pour nos usages quotidiens. Enfin, pour le chauffage, ce n'est peut-être pas le jour pour en parler, mais pour la construction, pour le papier, enfin, voilà, on n'est pas contre la coupe de bois, mais on pense qu'on peut le faire sans raser tout. En gardant du couvert en continu, on pourra en reparler après de comment on fait. Et puis on est très attaché aussi au respect de la biodiversité, donc on souhaite garder de la biodiversité dans les forêts,
comme il reviendra faisait, aussi. Mais comme il faisait autrefois.
Mais oui, ça revient à ça.
Plusieurs essences.
Bien sûr, c'est rien de très novateur, c'est plutôt revenir aux pratiques anciennes. Voilà, on cherche aussi à régénérer les milieux, et puis voilà. Peut-être aussi à laisser des parcelles, si on y réfléchit, en libre évolution, pour qu'il y ait aussi la préconisation des scientifiques, c'est entre 10 et 20% d'une forêt ou d'une propriété en libre évolution. C'est-à-dire là, on n'y touche pas, on n'y fait rien.
Tout à fait, oui.
Et ça permet éventuellement aux animaux de s'y réfugier. Voilà. Donc ça, c'est une réflexion qui est en cours et qui sera probablement mise en œuvre.
Ce qui est un petit peu détestable de nos jours, c'est quand ils font des tables rases, ils abîment tout.
Mais oui.
Alors oui, en fait, il faut comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. Parce que, évidemment, quand la forêt, c'est une source de revenus pour beaucoup de personnes. Il y a énormément de personnes en Dordogne qui vivent de ça. Et donc, quand on ne tient pas compte de la biodiversité ou d'autres paramètres comme les paysages, etc., évidemment, c'est beaucoup plus efficace d'avoir des grosses machines, de tout couper, de vendre par lot important, de faire de la monoculture, parce que la monoculture, ça nuit à la biodiversité. Vous l'aviez dit, on avait souvent beaucoup d'essence en Dordogne et on est en train, dans certains territoires, et notamment dans le Ribéracois, avoir de plus en plus l'envahissement du pin maritime. Alors, on n'a rien contre le pin maritime. Au contraire, c'est une essence qui vit très bien sur ces sols-là, mais il faut la mélanger avec d'autres forêts pour pouvoir justement avoir non seulement la biodiversité auquel on est très attaché, mais aussi des belles forêts. C'est un paramètre auquel on est très attaché aussi.
C'est intéressant parce qu'autrement, si on met que du pain, après, c'est pour les incendies, c'est catastrophique.
Alors c'est un autre, en effet, un autre sujet.
Mais...
Ben, on a vu ce qui s'est passé l'année dernière, il y a 2 ans, dans les Landes. Et les monocultures, il y a un autre problème que certaines régions de France connaissent, c'est les maladies. Quand une maladie, alors une maladie, les insectes,
les scolytes
dans les Douglas, dans d'autres régions de France. Mais ici, on a le nématode du pin, qui est un petit ver
qui
tue les qui se répand très 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 vite, et c'est un danger pour la forêt quand il y a une monoculture.
Oui, c'est vrai. Et je ne sais pas si vous avez sûrement voyagé dans la Double, parce que c'est la plus belle forêt qu'on peut avoir dans le coin, hein, dans le Ribéracois. Quand on va dans la Double, il y a une multitude, et quand même quand on vient dans le Verteillacois, on a la chance d'avoir des gens qui ont gardé encore leur forêt, où on y trouve des néfliers sauvages, vous savez, que l'on peut manger. Ils étaient quand même astucieux parce qu'ils plantaient un petit peu de tout.
Alors oui, notre idée, c'est de favoriser la diversité, voilà. Y compris pour les oiseaux et pour les animaux. Mais pour nous, une belle forêt, c'est une forêt... Alors, il peut y avoir du pin, parce que les scientifiques nous disent de toute façon que c'est bien de mélanger les résineux et les feuillus, et que les forêts sont plus résistantes après aux aléas climatiques. Mais c'est vrai que nous, on aimerait avoir du merisier, du cormier, différentes variétés de chênes, pourquoi pas...
Et aussi pour les champignons, parce que les champignons, ils poussent chacun à son arbre.
Tout à fait.
Tout à fait, c'est nécessaire.
Et dans les champs de résineux, puisque pour nous, ce ne sont pas des forêts, les plantations de pins, ce sont plutôt des champs de résineux, on trouvera peut-être des lactaires, mais encore, j'en suis pas sûre.
Délicieux, dit-on. Et,
voilà. Oui, quand on les trouve, oui. Mais les cèpes, on n'en trouvera pas, c'est sûr, et c'est quand même l'emblème de la Dordogne aussi.
Voilà. Oui. Bien, alors, qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes venu? Il a dû se passer des choses, vous avez sûrement avancé.
Alors, on a, en fait, dès la création du GFCE, on a acheté une parcelle de 2,5 hectares, et puis on s'est dit, bon, on va grossir, et depuis, on a acheté une parcelle du côté de Saint-Michel-et-Paron, on a acheté d'autres petites parcelles du côté de Saint-Germain-du-Salambre, on a acheté une petite parcelle d'ailleurs tout près d'ici à Ribérac, et donc ça nous a permis de nous faire connaître, de parler avec les gens du coin, d'essayer de faire connaître notre GFCE et de faire rentrer de nouveaux associés pour les projets futurs, parce qu'on a des projets d'expansion, dont un qui est assez important. Donc voilà, ça permet, quand on a une nouvelle forêt, de faire visiter à nos associés, de se rencontrer, d'élaborer des projets dont on va vous parler tout à l'heure.
Voilà, c'est ça. Donc, avant de faire une petite pause musicale, qu'est-ce qui a été important pour vous dans ce laps de temps où on ne vous a pas vu?
Moi, je dirais que, bon, outre le fait qu'on a grossi en nombre d'associés, et puis que du coup, ça permet d'avoir davantage de relations avec davantage de gens, ça nous a permis aussi de réfléchir à qu'est-ce qu'on allait en faire de ces forêts qu'on avait achetées. Traditionnellement, puis on a fait faire aussi des diagnostics par le technicien de la Chambre d'agriculture, puisque sur notre secteur, c'est lui qui intervient. Et comme nous nous y attendions, il nous a dit que c'était des forêts qui étaient économiquement pauvres. Hein, c'est le discours qu'on entend beaucoup sur la forêt de la Double. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chênes tauzins, que les sols ne sont pas très riches. Et donc, ça nous a permis de nous dire, bon, qu'est-ce qu'on en fait de ces forêts pour essayer de les améliorer? Et donc, une des spécificités de notre groupement, puisque des groupements forestiers, citoyens, écologiques, même s'ils ne s'appellent pas tous exactement comme ça, il y en a 6 en Dordogne, ce qui n'est pas rien. Nous, on a décidé de ne pas planter pour l'instant et de travailler plutôt avec des semis. Oui. Donc, on s'est lancé dans la récolte de graines locales. Et finalement, vous disiez tout à l'heure, c'est comme faisaient les anciens, mais c'est exactement ce qu'ils faisaient. Souvent, les gens nous disent « Ah, moi, mon père, il partait avec des glandes dans la poche et puis il les semait tout au long de sa promenade. » Donc, nous, on va se lancer. Là, on est en train on a commencé au mois de novembre, mais on va essayer d'amplifier le mouvement. Ramasser des graines de toutes sortes en fonction des calendriers de récolte, et à l'automne, aller les semer sur nos parcelles en respectant les sols, la correspondance entre l'essence et le sol, parce qu'on ne peut pas planter n'importe où, et puis essayer petit à petit d'enrichir nos parcelles comme ça, plus naturellement, puisque les scientifiques qui nous accompagnent nous disent qu'un arbre qui a été semé est plus solidement enraciné dans le sol qu'un arbre qui a été planté, qui risque d'avoir des racines en chignon ou de s'étaler. Oui. Et que nous, ce qu'on veut, c'est avoir des forêts qui durent longtemps. On ne se projette pas à la longueur de notre vie, mais bien au-delà. Voilà. Et on a vraiment l'intention de travailler pour les générations futures. Et un deuxième projet, mais j'aurais peut-être...
On a le temps. Voilà. On va en parler, on va se tourner vers Christian, nous passer un petit bout de musique et après on se retrouve.
Eh bien, le premier morceau que vous avez choisi, c'est le séquoia de Pomme.
Alors avant d'en terminer avec vos motivations et vos objectifs, il y a sûrement encore quelque chose à nous dire.
Oui, on va vous parler d'un autre projet qui nous tient à cœur sur une des parcelles qu'on a achetées sur Chanterac et Saint-Jean-d'Ataux. Enfin, on a un petit ruisseau qui, comme la majorité des petits ruisseaux, coule bien droit et a été quand même très creusé probablement par la main de l'homme. Et on a envie d'essayer de le régénérer, c'est-à-dire de lui permettre de refaire des méandres comme fait naturellement un ruisseau ou une rivière.
Comme autrefois.
Et comme on voyait autrefois, parce que c'est, quand un ruisseau méandre comme ça, ça permet à la terre de se gorger d'eau pendant l'hiver et la période des pluies, et ensuite de restituer cette eau l'été. Donc ça permet aux arbres de souffrir moins et ça va nous permettre de réimplanter des essences qui aiment l'humidité. Donc nous avons pris contact avec le syndicat mixte du bassin de Lille pour vérifier qu'on était dans les clous, qu'on n'allait pas faire de bêtises. Et du coup, nous voilà accompagnés, et on en est très heureux, par l'Office français de la biodiversité et par la police de l'eau de la DDT 24, donc ils vont nous accompagner, ce qui va donner lieu à une étude avant, après, pour voir l'effet de ce qu'on va mettre en place.
Les sols, l'étude des sols.
Voilà, des sols, des plantes, voilà. Et l'idée, c'est vraiment, alors on appelle ça un peu en raccourci un chantier castor, ça a été lancé par un philosophe en France qui s'appelle Baptiste Morisot et qui nous a importé une technique qui a déjà été mise à l'épreuve depuis, je pense, 10 ou 15 ans aux États-Unis. Il s'agit de reproduire le travail que faisaient les castors dans les rivières avant, c'est-à-dire de mettre des embâcles, des obstacles qui laissent passer l'eau, mais qui la filtrent aussi, qui permettent à la terre et aux alluvions de s'amasser, donc au sol de se relever. À partir de là, ça déborde sur la terre et ça va l'hydrater. Et puis, du coup, ça va forcer, enfin, naturellement, le ruisseau, puisqu'il y a un obstacle, il va aller chercher à creuser à côté. Et il va faire petit à petit des virages, des méandres.
Il va faire son propre chemin.
Et il va retrouver son chemin. Voilà. Donc, ça doit, en principe, favoriser le retour d'une biodiversité aquatique. Ça va favoriser l'installation d'essences qui sont liées à ces terrains plus humides.
Les animaux aussi.
Et ce qu'on nous dit, c'est que dans certaines régions où cette technique a déjà été mise en œuvre, les castors sont revenus finir le travail. Oui. Oui. Et alors ça serait vraiment super.
Oui. Il n'y a pas que les grenouilles, toutes les bêtes.
Bien sûr.
Et puis les animaux pour boire aussi.
Oui, alors ça, ils viennent déjà boire. On a mis des plages photos, on les a vues.
Il n'y a pas le système, comme vous dites, parce que dans une méandre, il reste toujours un peu d'eau.
Oui,
quand ça file droit...
C'est plus compliqué.
Voilà, c'est plus compliqué.
Oui,
là,
oui,
ça
tout
file,
à fait.
Et là, ils n'ont pas forcément le temps ni le loisir de prendre, eux, le temps de boire.
Tout à fait.
C'est très bien. Mm.
Donc, espère que...
Ce qui est intéressant, c'est que c'est assez novateur en France. Et donc, ce qu'on espère, c'est qu'on serve un petit peu d'exemple. Alors, il y en a d'autres, je crois qu'il y en a...
Dans la Drôme
Oui, mais dans...
Dans la vallée du Siron, en Gironde.
Dans la vallée du Siron, aussi, je crois aussi, en Lot-et-Garonne. Bon,
oui.
il y a des petits chantiers comme ça. Et en fait, c'est quelque chose qui pourrait... vraiment prendre de l'ampleur et par ces temps où on va arriver certainement à des pénuries d'eau pour la nature, ça va être quand même très très intéressant.
Oui, je pense que ça va être plus qu'intéressant mais nécessaire surtout.
Bien sûr. Et puis par rapport aux pénuries d'eau, ce qui est important à signaler aussi, c'est que plus on a de forêts, plus on aura de la pluie. Parce qu'on sait maintenant que le petit schéma qu'on a appris quand on était tous à l'école. Il était un peu simplificateur, mais que les arbres sont capables d'envoyer aussi des particules dans le ciel pour attirer les gouttelettes d'eau et faire pleuvoir au-dessus des forêts. Donc on a tout intérêt à avoir un territoire qui garde ses forêts. Et ce qu'il faut dire, c'est que ça marche un peu avec les résineux, mais ça marche quand même beaucoup mieux avec les feuillus. Donc maintenir des forêts de feuillus, c'est quand même important. Et puis, on fait cette émission en période de canicule. Et on sait tous que se promener dans une forêt de feuillus, là, on a passé une semaine, tous les après-midi en forêt la semaine dernière, parce qu'on s'intéressait, enfin, on essayait de faire des progrès en sylviculture, on va dire. Et on n'a pas eu trop chaud. On est resté en pantalon. Enfin, moi, j'étais pantalon manche longue. J'ai supporté très bien, alors qu'il fait quand même très, très chaud. Donc, pour que tout le monde vive mieux, on a intérêt d'avoir des forêts sur notre territoire.
Pour nos auditeurs, quand vous parlez de feuillus, ça serait bien d'en citer quelques-uns.
Alors, on a différentes sortes de chênes. Le chêne pédonculé, le chêne Cécile, le chêne Tauzin. On a du charme par chez nous. Du hêtre pas trop, c'est plutôt le nord du département. On a du tilleul à petite feuille aussi. On peut avoir du merisier, on peut avoir de la lisier, du cormier. J'en oublie certainement.
Des aulnes près des zones humides, justement. Ça, c'est...
Alors, près des zones humides, on a des frênes, on a du peuplier tremble aussi.
Oui, tremble.
On peut avoir de l'aulne, effectivement. Et puis, on a des noisetiers aussi dans nos forêts, alors, qui sont un peu plus des arbustes, qui sont jamais très, très grands.
On a oublié de citer le châtaignier.
Et on a oublié le châtaignier, qui est quand même emblématique de la Dordogne aussi.
Et qui a des petits soucis, en fait, en Dordogne, parce qu'il y a des endroits où il a des petits soucis, parce que les souches sont anciennes et il souffre un petit peu de la sécheresse. Donc... Il faut trouver le moyen de passer de ces taillis de châtaigniers qui ont des grandes surfaces à une forêt un peu plus mélangée où le châtaignier doit garder sa place parce qu'il n'est pas encore, il n'est pas dit qu'il n'y ait plus de châtaigniers en Dordogne pendant longtemps. Quoi. Enfin, donc nous, on pense qu'il y a une mutation à faire par rapport à ce problème du châtaignier, mais que contrairement à ce que certains nous disent, il faut pas tout raser.
Les souches sont épuisées aussi parce qu'elles n'ont pas été travaillées depuis longtemps. C'est vrai qu'il y a 50 ou 60 ans, il devait y avoir encore des paysans qui coupaient les CP, qui les entretenaient. Là, ça a été un peu laissé à l'abandon et ça les épuise aussi. Donc,
Et je suppose qu'en Bordeaux, vous allez réimplanter tout ce qui est roseau pour retenir l'eau, justement.
Roseau, pas forcément, non. Bon, non, c'est pas, non, ça ne fait pas partie de la forêt.
Parce que ça fait des arêtes, ça fait oui, arrêter l'eau. Quand
après,
ça
les gens viendront des... naturellement.
Oui,
ça viendra.
Pas besoin de les
replanter. Non, ça, ce n'est pas prévu. Je vois déjà, le long de ce petit cours d'eau, on a une régénération naturelle de frênes et de peupliers trembles qui est quand même déjà assez satisfaisante. Donc, souvent, la nature fait les choses... Voilà, pour aider la régénération, ce qu'on a appris cette semaine et qui me paraît très intéressant, c'est de mettre des bacs à glands dans les forêts pour que les jets viennent se servir et fassent le travail à notre place. Et ça, c'est une chouette idée qu'on va retenir et qu'on va proposer à nos associés.
Parce qu'ils vont les disperser.
Mais oui, les jets et les écureuils font le travail pour nous, bien souvent.
Même pour les noisettes, c'est pareil.
Et aussi, bien sûr.
Et alors, en fait, le travail du forestier, et tous les forestiers connaissent cette phrase, c'est « imiter la nature, hâter son œuvre ». C'est-à-dire, la nature fait ça depuis des milliers, voire des millions d'années. Et donc, le travail de l'humain, c'est respecter ces manières de fonctionner.
Et
puis, essayer, pour produire du bois, pour nos besoins humains, essayer de hâter le processus naturel.
Bien, c'est tout ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous raconter? Vous avez acheté, vous m'avez dit tout à l'heure, quelques parcelles. J'ai remarqué, c'est toujours près de la Double, quand même.
On est les feuilleux de la Double. Donc, on ne veut pas trop s'éloigner. On ne s'éloignera pas, d'ailleurs, c'est notre territoire.
Justement,
d'action.
J'allais vous demander jusqu'où vous allez dans vos déplacements et dans vos créations.
Alors, on dira la Double périgourdine, puisqu'on a été sollicité pour s'étendre vers la Charente, et ça, je ne suis pas très sûre qu'on le fasse, ou en tout cas pas tout de suite. Pour l'instant, on a trouvé plutôt des parcelles en pourtour de Double et on espère après pouvoir gagner aussi un peu le centre. Là, on a un projet d'achat sur Montpont avec une belle propriété de plus de 10 hectares qui a été assez préservée avec de la biodiversité puisqu'on y a vu des traces et des épreintes de loutres au bord de la rivière. Enfin, c'est quand même assez intéressant. Donc, on est en train de monter le projet, de trouver les financements aussi parce que, évidemment, une forêt de plus de 10 hectares, c'est pas donné. Donc, si des gens sont intéressés pour participer.
Et vos financements, justement.
Alors, le financement, c'est uniquement l'investissement de nos associés.
Ah, d'accord.
Puisque c'est une sorte, un groupement forestier, c'est une sorte de société civile immobilière, en fait, mais qui a pour objet les forêts. Et donc, on ne peut pas recevoir ni de dons, ni de legs, ni de subventions. Enfin, on peut avoir, si, quelquefois, des subventions pour des actions de plantation, de préservation de la nature, des choses comme ça. Mais les avoirs du groupement, c'est vraiment l'argent que les gens investissent.
D'accord.
Et quand on investit, on s'engage pour 5 ans, au moins. Si on bénéficie d'un dispositif fiscal qui vise à faire diminuer un peu l'impôt, on s'engage à laisser l'argent 8 ans. Mais cet argent vous appartient. Et donc, on est tous copropriétaires de partie de nos forêts. Voilà.
Donc, la personne qui le cède a toujours le droit d'aller sur son terrain.
Le vendeur, de toute façon, il peut venir se promener. Nous, on accepte que les gens viennent se promener dans nos forêts, à condition qu'il n'y ait pas de dégradation.
Oui,
donc,
sûr.
Évidemment, on ne veut pas de moto, on ne veut pas de quad. Mais, et même par rapport à la chasse, puisque c'est quand même toujours un sujet qui clive, on n'a pas de doctrine, on n'est ni pour ni anti-chasse. Et on s'est dit que ça serait selon les parcelles. Dans une parcelle où il y a beaucoup de biodiversité, probablement, on ira discuter avec les chasseurs pour qu'ils évitent de venir effrayer les animaux qui s'y réfugient. Et en même temps, comme le disait Xavier tout à l'heure, les cervidés, que ce soit les cerfs ou les chevreuils, c'est un vrai problème pour faire pousser du bois. Donc on a aussi besoin des chasseurs pour réguler cette population, puisque les prédateurs naturels ont disparu. On n'a pas de loup. À ma connaissance, on n'a pas de lynx en Dordogne, même si on entend dire que le loup s'approche et que certains dans la Double se préparent à l'arrivée du loup, puisqu'on en a entendu parler aussi.
On a reçu un monsieur qui fait des moutons.
C'est qu'il y a un petit groupe dans la Double là, qui se réunit régulièrement et c'est intéressant.
Il a dit qu'il avait mis des traces.
Ah oui, d'accord. Mais c'est vrai que les cervidés, c'est un problème, parce que ça mange les bourgeons terminaux.
Puis
quand les arbres sont un peu plus grands, ils frottent leur bois pour enlever le velours, donc ça abîme quand même l'arbre, ou ils se grattent. Et c'est vrai qu'on voit des arbres qui sont abîmés, donc on ne peut pas mettre une protection derrière chaque arbre dans les forêts, ce n'est pas possible. Donc puis on est quand même dans l'idée aussi qu'il faut partager le territoire avec l'ensemble de nos concitoyens, et on n'a pas envie de... d'être dans une espèce de forteresse. Voilà, il faut discuter avec les chasseurs et voir comment on peut coexister, cohabiter.
Tout le monde peut y mettre un peu du sien.
Bien sûr, oui, bien sûr. Ça, on en est persuadé.
On va faire une autre pause musicale et on se retrouve après avec un autre sujet, je suppose.
Eh bien, nous allons écouter Georges Brassens qui chante Le Grand Chêne.
Il vivait en dehors des chemins forestiers. Ce n'était nullement un arbre de métier. Il n'avait jamais vu l'ombre d'un bûcheron, ce grand chêne fier sur son tronc. Il eut connu des jours filés d'or et de soie, sans ses proches voisins, les pires gens qui soient. Des roseaux mal pensants, pas même des bambous, s'amusant à le mettre à bout. Du matin jusqu'au soir, ses petits rejetons, tout juste canne à pêche, à peine mirliton, lui tournant tout autour, chantait in extenso l'histoire du chêne et du roseau. Et bien qu'il fût en bois, les chênes s'écourant, la fable ne le laissait pas indifférent. Il advint que lassé d'être en butte au lazy, il se résolut à l'exil. À grand-peine, il sortit ses grands pieds de son trou et partit sans se retourner ni peu ni prou. Mais moi qui l'ai connu, je sais bien qu'il souffrit de quitter l'ingrate patrie. À l'orée des forêts, le chêne ténébreux a lié connaissance avec deux amoureux. Grand chêne, laisse-nous sur toi graver nos noms. Le grand chêne n'a pas dit non. Quand ils eurent épuisé leur grand sac de baisers, quand de temps s'embrasser leurs becs furent usés, ils ouïrent alors, en retenant des pleurs, le chêne comptant ses malheurs. Grand chêne, viens chez nous, tu trouveras la paix. Nos roseaux savent vivre et n'ont aucun toupet. Tu feras dans nos murs un aimable séjour, arrosé quatre fois par jour. Cela dit, tous les trois se mirent en chemin, chaque amour tenant une racine en main. Comme ils semblaient contents, comme ils semblaient heureux, le chêne entre ses amoureux. Au pied de leur chaumière, ils le firent planter. Ce fut alors qu'il commença de déchanter, car en fait d'arrosage, il n'eut rien que la pluie, les chiens levant la patte sur lui. On a pris tous ses glands pour nourrir les cochons. Avec sa belle écorce, on a fait des bouchons. Chaque fois qu'un arrêt de mort était rendu, c'est lui qui héritait du pendu. Puis ces mauvaises gens, vandales accomplis, le coupèrent en quatre et s'enfirent un lit. Et l'horrible mégère, ayant des tas d'amants, il vieillit prématurément. Un triste jour enfin, ce couple sans aveu le passa par la hache et le mit dans le feu. Comme du bois de caisse, amère destinée, il périt dans la cheminée. Le curé de chez nous, petit saint besogneux, doute que sa fumée s'élève jusqu'à Dieu. Qu'est-ce qu'il en sait le bougre, et qui donc lui a dit qu'il n'y a pas de chêne en paradis? Qu'il n'y a pas de chêne en paradis?
Alors, avant de rentrer dans vos projets, j'aimerais que vous détailliez un petit peu plus ce que vous avez à dire à nos auditeurs, parce que c'est important. Nous sommes un pays de forêts, donc il faut les gens qui arrivent, des fois, héritent de forêts, ils ne savent pas quoi en faire.
Hein? Alors justement, nous, on est là justement pour... Alors, il y a ceux qui héritent de forêts et il y a ceux qui aimeraient en acheter. Mais en fait, chacun est dans une démarche individuelle. Donc nous, l'idée du groupement, un groupement, c'est de justement avoir une action collective. Et on se rend compte qu'on regroupe des gens qui auraient pu acheter individuellement des forêts, mais ont ni les compétences, ni le savoir, ni le temps pour le faire et pour s'en occuper. Donc c'est un petit peu le rôle du groupement forestier, c'est de faire participer les gens d'abord à l'achat, et puis après, aux actions qu'on peut y mener sur le terrain. Et ça nous amène à faire des petits chantiers collectifs où alors on prend un plaisir fou à se rencontrer, à échanger. On a des gens qui sont très savants et des gens qui ne connaissent rien du tout. Et c'est ce mélange de motivation, de connaissances qui fait que le groupement forestier a tout son intérêt.
Au-delà de ça, moi j'ajouterais que dans notre groupement forestier, on a des gens qui ont fait des investissements financiers extrêmement différents. C'est-à-dire qu'on peut devenir associé à partir de 100 euros. Et on a des gens qui sont peu fortunés, qui ont mis 100 euros dans le groupement forestier et qui ont une énergie folle de déconnaissance et qui sont toujours prêts à participer à des chantiers. Mmh. On a des gens qui sont plus fortunés et qui mettent davantage d'argent, sachant que dans notre groupement, quand on prend des décisions collectives, c'est une personne, une voix. Mmh. Donc voilà. Ça n'est pas forcément les gens qui ont le plus d'argent qui sont les plus puissants, on va dire. Et en fait, c'est comme une micro-société où cohabitent et collaborent pour un objectif commun des gens qui ne se seraient probablement jamais rencontrés.
Oui, tout à fait.
Un paysan du coin avec une personne qui a une résidence secondaire, mais qui a grandi dans la Double et qui revient parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans notre groupement, qui sont extrêmement attachés parce qu'ils ont vécu des choses fortes dans
leur
cette
enfance,
région.
Voilà. Leur enfance, tout ça.
Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de fédérer tout ce monde-là pour participer à une action commune. Et on voit bien comme les gens sont contents de venir dans ces forêts. Mmh. Puis vous avez beau avoir mis 100 euros, vous venez vous promener, c'est votre forêt. Hein.
Ah, mais ça, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais tout à l'heure.
C'est amusant.
Parce que bien souvent, les gens sont partis en ville. Et puis les enfants ou les petits-enfants héritent de quelque chose. Et c'est là l'intérêt, parce que eux, vous allez leur apprendre et redonner l'envie de la forêt.
Oui,
parce qu'ils étaient complètement hors-jeu, les pauvres.
Alors une façon de nous rejoindre, c'est aussi de faire un apport en nature, on appelle ça comme ça. C'est-à-dire de mettre la forêt dans l'escarcelle du groupement forestier.
Oui.
Et de recevoir en échange un nombre d'actions qui correspond,
d'accord,
un nombre de parts, en fait, qui correspond à la valeur de la forêt. D'accord. Voilà. Donc pour des gens qui auraient des forêts qui les encombrent, qui ne savent pas qu'en faire, ils peuvent nous les vendre, mais ils peuvent aussi nous rejoindre.
Aussi les données.
C'est pas les données, puisque
c'est un échange.
C'est un échange contre des parts, contre des parts d'associés, donc de la valeur monétaire.
Et pour avoir un ordre de grandeur, vous pouvez nous indiquer un prix à l'art ou à l'hectare?
Non. Non,
d'accord.
Parce
alors,
que bah, vas-y,
on peut quand même, on peut quand même. Alors, ce qui fait la valeur commerciale, enfin, de marchande de la forêt, c'est la surface
d'accord,
et ce qu'il y a dessus. Donc, dans la Double, la valeur de l'hectare, on va dire 1000 euros à
d'accord,
l'hectare.
D'accord.
Et après, ça peut monter.
1000 euros sans les arbres.
Sans les arbres. Donc, avec les arbres, ça peut être 1500, 2000, 3000, 4000, 10 000.
Ouais.
Ça dépend de ce qu'on a dessus. Donc.
Et qu'est-ce qui vaut le plus, la monoculture ou justement la diversité?
Non, ça dépend des essences, surtout ce qu'on a dessus. C'est assez, ça dépend aussi de la manière dont on peut les récolter, c'est-à-dire
les
accessibilités.
D'accord,
Et puis, il y a énormément de critères.
Ok, d'accord.
De manière générale, quand même, la monoculture, comme ce sont de grandes quantités, c'est plus facile à vendre.
Ouais.
Et puis, c'est plus demandé, parce que c'est un peu ce qu'attendent les scieries.
Après,
vous avez de très gros chênes de qualité mérin, pour faire du sillage, ou de très belles poutres, ça peut valoir vraiment beaucoup, beaucoup plus cher que le résineux. Donc, nous, pour l'instant, on a acheté... Le prix à l'hectare qu'on a mis, c'était entre 1400 et 8000 euros.
Okay.
Donc, ça fait déjà quand même une jolie fourchette.
Une jolie fourchette
je pense que ça peut aller bien au-delà.
D'accord, très bien.
Et vous n'avez pas de contraintes pour l'entretien, parce que les gens ils disent oh, je vais hériter d'une forêt, il va falloir que je la nettoie, il va falloir que je fasse ça.
Alors nous, on défend beaucoup le bois mort au sol et le bois mort sur pied.
Voilà, parce pour que, les petites bêtes qui sont dedans.
Ben, c'est des facteurs de biodiversité. Ben oui. Un bois mort au sol, il nourrit, il va accueillir des mousses, des bien insectes sûr. Qui vont manger le bois, ouais. Des champignons qui vont le détruire, enfin qui vont
le décomposer,
qui vont détruire la lignine. Et c'est vraiment un facteur de biodiversité. Et en plus, contrairement à ce qu'on dit souvent, comme il y a de la mousse sur ces troncs qui sont au sol, ils se gorgent d'eau.
Donc.
Et ça ne va pas du tout favoriser les incendies, contrairement aux champs de résineux qui sont des espèces de champs d'allumettes. Hein, alors, parce que c'est plein de terpènes, et les terpènes, ce sont des substances inflammables.
Justement, vous parlez de l'entretien, c'est quand même quelque chose... En fait, si vous n'entretenez pas la forêt... Elle va continuer à pousser. Sauf que vous aurez peut-être du mal à récolter le bois. Donc, ce qu'on appelle entretien, en général, c'est pour l'exploitation du bois qu'on va vendre. Si on a une zone en libre évolution, justement, on n'y fait rien. On n'y touche pas et la forêt prend ses aises. Sauf que l'intérêt ne sera pas de récolter le bois. Et justement, nous, si on veut récolter du bois sur certaines parcelles, on va essayer de promouvoir ce qu'on appelle la sylviculture mélangée à couvert continu. Ça peut être... c'est-à-dire que le principe, c'est plusieurs essences. Toujours en couvert forestier, on fait quelques éclaircies. On favorise certains arbres d'avenir. Et puis, donc, on fait des éclaircies tous les 7, 10, 15 ans. Ça dépend des essences. Et donc, on a toujours notre forêt. Et au lieu de la couper en une seule fois et attendre 30, 40, 50 ans avant de refaire une coupe, on fait des petites coupes d'éclaircies qui nous permettent de rentrer de l'argent et puis de continuer notre exploitation. Alors ça, ce n'est pas forcément ce qu'on va faire sur toutes les parcelles. Au contraire, il y a plein de parcelles où ça sera peut-être très compliqué, mais on ne s'interdit pas de le faire.
Mais c'est un peu prématuré pour nous parce que nos forêts ne sont pas assez matures. Mais c'est vrai qu'on prévoit à terme qu'il y ait des travaux d'élagage, qu'on puisse
de soins avec les parasites.
Ça, normalement, ça se régule tout seul dans une forêt mélangée. Ce qu'il faut surtout qu'on regarde, c'est
parce que la petite bête là, qui monte dans qui tue tout. Hein.
Mais la seule chose, c'est les arbres qui sont attaqués, peut-être les couper, mais même ça,
il n'y a pas moyen de les soigner, les sauver.
Moi, je suis pas assez spécialiste. On laissera ça aux professionnels, à nos conseils, parce qu'on fait appel à des conseils aussi.
Parce que ça se propage à une vitesse violente.
Alors, quand c'est très attaqué, je vous parlais du nématode du pin, il coupe sur je crois que c'est 100 mètres ou 200 mètres
de diamètre.
Oui, ça fait donc c'est énorme. Mais bon, nous.
Ça, c'est pour les plantations.
On espère qu'on ne sera pas confronté à ce genre de problème.
Non, puis on n'a pas de plantation de pin, donc on n'a pas de raison.
Oui, mais on aura peut-être d'autres maladies.
Après, en termes d'entretien, ce qui est important, c'est de regarder comment est la canopée au-dessus de notre tête. Est-ce qu'il y a besoin de faire des éclaircies pour avoir de la régénération? Est-ce qu'on laisse comme ça? Il faut vraiment jouer avec la lumière, doser la lumière dans la forêt pour pouvoir après produire des bois de bonne qualité. Et ça, c'est le chemin qui est devant nous. Mm-hmm.
Et puis le fait de laisser les arbres morts, c'est important. Les gens disent ah là, ils ramassent pas leur bois mort. Non. Oui, c'est bien parce que si c'est un arbre qui a laissé tomber, par exemple des châtaignes ou des noisettes ou autre chose, vous savez que là ça va faire du compost. C'est l'arbre, donc si lui n'a pas laissé de lui-même, vous pouvez les planter, ça poussera.
Oui, oui.
Parce que le terrain est le bon.
Au-delà de ça, quand on enlève le bois mort. Ça veut dire qu'on exporte des minéraux qui étaient auparavant présents dans le sol. Donc chaque fois qu'on exporte la totalité de la masse de bois qui a été produite, on appauvrit notre sol.
Bien sûr.
Donc le bois mort, il va aussi revenir rendre à la terre un peu ce qu'il a pris, notamment en termes de minéraux. Et c'est vrai que quand on voit certains chantiers en coupe rase où on ramasse vraiment tout pour pouvoir tout revendre, et ben en fait, les propriétaires se mettent un peu en difficulté. Et nous, on ne veut pas en tout cas... Après, ils font ce qu'ils veulent, ils sont chez eux, c'est ce qu'on nous dit souvent.
C'est pas votre méthode.
On ne veut pas entamer, on ne veut pas prendre ce chemin-là.
Non seulement il faut laisser les bois morts, mais aussi de temps en temps, il faut laisser des vieux arbres. Mmh. En fait, dans le forêt, vous trouvez très peu de vieux arbres, parce que c'est des semenciers, et parce qu'ils seront amenés à faire le cycle complet d'une forêt, c'est-à-dire un stade de sénescence où, à un moment donné, l'arbre il va avoir subir, une tempête ou comme ça, il va tomber, ou une maladie, etc. Et ça fait partie aussi de cette idée de la SMCC de gérer un petit peu comme la nature, mais en la favorisant d'une certaine manière.
Il faut que chacune de nos décisions soit bonne pour la forêt. Il faut qu'on pense à la forêt avant de penser au portefeuille du groupe
forestier. Et vous vous réunissez souvent ?
Bon. Alors, il y a une assemblée générale annuelle. Ça, de toute façon, c'est obligatoire, c'est statutaire. Et puis, on est 4 co-gérants qui se réunissent régulièrement tous les mois pour prendre les décisions.
Ah oui, quand même, oui.
Et on propose des rencontres chaque fois qu'on a une sortie sur le terrain, alors que ce soit pour rencontrer le syndicat mixte du bassin de Lille, pour prendre un conseil sur le ruisseau. Tous nos associés ont l'information, ceux qui sont disponibles et qui ont envie viennent. Mmh. Et puis de temps en temps, je dirais une fois ou deux par an, on se dit « Ah ben là, il faudrait quand même qu'on réfléchisse aux décisions qu'on va prendre parce que ça impacte la politique ou les orientations ». Et bien on lance un appel aux associés, on propose une réunion, viennent ceux qui peuvent, ceux qui veulent. Les autres sont invités à donner leur avis par mail, de façon que ça puisse participer aussi à la décision. On se réunit chaque fois qu'on peut, parce qu'on a vraiment envie que ça soit convivial. Et à chaque fois après, il y a toujours un temps pour boire un coup ensemble, pour pique-niquer ensemble. Voilà, on est vraiment attaché à cette convivialité.
Et on est attaché aussi à le faire sur place, sur le terrain.
Oui, donc, les petits,
le chantier de semis qu'on a fait, bon, c'était une expérimentation, mais on va être sûrement amené à le reproduire. Ça permet aux gens de venir avec leur, éventuellement s'ils ont des outils, un outillage,
Et d'apprendre,
apprendre à le faire, en effet. Voilà,
c'est important.
Ça.
Hein, oui, voilà.
Oui, d'autant que je ne sais pas si on l'a dit déjà, mais on a créé un conseil scientifique et technique.
Oui.
Cette année, et que du coup on a un peu de ressources, alors on espère en avoir davantage à l'avenir, mais de la ressource intellectuelle et scientifique pour nous accompagner.
Voilà. On peut faire encore une pause musicale avec Christian ?
Eh bien, le troisième morceau sera interprété par les Cowboys Fringants. Plus rien.
Que quelques minutes à ma vie, non plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps. Quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. Dans ces temps, on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Mais moi, je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante. Et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, plutôt plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Tout ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient hommes nubilés. Par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendait certains hommes vraiment riches et puissants. Et ces nouveaux dieux ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Mais au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens. Dans la panique, on déclarait l'état d'urgence. Dans tous les océans, on engloutit les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies. Les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages, on lisait la détresse. Les gens du se battent contre les pandémies, décimés par millions par la grosse maladie. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim. Comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert. désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à la vie. Et pour plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité.
Et bien sûr, comme le temps passe vite, on va, avant de conclure, revenir vers vous pour ce que vous avez à dire d'important. Et puis on finira par toutes les comment on peut vous joindre, mmh. comme d'habitude. Hein, maintenant, vous êtes habitué.
Oui. Donc, un de nos projets actuellement, c'est de créer une association des amis des feuillus de la Double. Parce qu'on se rend compte que certaines personnes viennent vers nous parce qu'elles ont envie de participer. Alors, soit elles ont simplement envie de participer à nos chantiers, soit elles ont envie de participer à cette action de préservation de la forêt, mais disent, bah, moi, c'est trop cher pour moi, je n'ai pas... Ou alors, moi, je n'ai pas envie d'être attentif. Parce que quand on discute avec un futur associé, on dit, on attend quand même, à minima comme engagement, que vous votiez au moment des assemblées générales, que vous répondiez quand on pose des questions. Parce que l'idée, ça n'est pas que les co-gérants s'occupent du groupement forestier tout seul. On a vraiment envie que ça soit un projet collectif. Et donc, certaines personnes n'ont pas envie de s'engager de cette façon-là et nous disent, mais moi, je voudrais juste donner de l'argent. Donc, on a décidé avec les associés de créer, d'ailleurs, c'est plutôt eux qui vont le faire que nous, de créer une association, les Amis des Feuillus de la Double, qui permettra, qui deviendra associée, du coup, dans le groupement forestier. Mmh. Et avec cet argent que ces personnes souhaitent donner, l'association achètera des parts.
Mmh.
Et pourra être un associé comme les autres et participer à ce travail-là. Et ça nous permettra aussi d'ouvrir les chantiers, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, moi, le chantier Castor, ça m'intéresse, je voudrais venir faire ça avec vous dans le ruisseau, mais je ne veux pas devenir associé du groupement forestier », ce qui s'entend tout à fait. Ben, ça permettra d'ouvrir aussi, et j'espère, mais ça on verra en fonction des énergies qui vont se fédérer là-dessus, que ça permettra probablement de proposer des sorties dans les forêts. Parce que nous, on a déjà la gestion, il faut qu'on pense future exploitation, transformation des forêts. C'est vrai qu'on ne peut pas tout gérer. Et j'espère que du côté de l'association, on pourra ouvrir un peu pour intéresser encore plus les gens du territoire à l'avenir de leur forêt et peut-être à des façons de faire un peu différentes des méthodes de la sylviculture industrielle. Mmh.
Vous avez des associations avec M. Wisniewski, je ne sais pas si vous
connaissez. Oui, on le connaît bien, Bruno Wisniewski.
Ben, ça marche très bien, c'est sorti.
Tout à fait.
Très intéressant. Oui. Puis Cléophée aussi fait des petites... elle a une petite forêt
oui,
aussi.
Oui, absolument.
Cléophée, vous ne connaissez
non.
pas Cléophée?
Non.
Elle fait les plantes médicinales et elle fait des petites balades en forêt avec enfants et autres.
Non, mais Bruno nous avait invités quand il a organisé un événement sur la Roche-Chalais.
On
travaille bien avec lui.
Voilà. Donc ça, c'est important pour vous. Vous avez d'autres choses?
Ben, on est preneurs de toutes les énergies, de toutes les énergies qui ont envie de s'investir dans la forêt. Et puis que les gens qui ont des forêts à vendre et qui souhaitent qu'elles soient préservées, parce que c'est souvent ça les vendeurs qu'on rencontre, c'est des gens qui sont attachés à leur forêt parce que c'est la forêt des parents,
des grands-parents
ou des grands-parents et qui ont besoin d'argent ou qui tout simplement n'ont pas le temps ni l'envie de s'en occuper, mais qui voudraient quand même que ça soit un peu préservé, qu'on garde les arbres, même s'ils ne sont pas toujours très beaux, qu'ils n'hésitent pas à prendre contact avec nous.
D'accord.
Et nous, c'est ce type de biens qui nous intéresse. Hein. Nous, on n'a pas envie de racheter des plantations de pins maritimes, a priori. Encore qu'on se dit que si une fois dans un lot, il y en a, on peut aussi couper une partie des pins, laisser de la régénération d'autres essences s'installer, voir comment ça évolue. Si vraiment il faut enrichir un peu en plantant, il y a toujours moyen de faire quelque chose, mais c'est plus long, c'est plus compliqué et puis plus coûteux.
Bien, vous nous donnez vos coordonnées. Comment on peut vous joindre?
Alors, on peut nous joindre en tapant dans un moteur de recherche les feuillus de la Double. On trouvera notre site qui permet de nous interpeller par un formulaire de contact.
D'accord.
On n'a pas de téléphone spécifique parce qu'on est 4 co-gérants et que ce serait trop compliqué. Mmh. Et sinon, on a une adresse mail. Donc, c'est lesfeuillus, évidemment, avec un S, de la Double, tout accroché et tout en minuscule, @proton, proton.me. Donc, le plus simple, c'est de passer par le formulaire de contact, parce qu'on tape les feuillus de la Double et on nous trouve.
Oui.
Ça permet aussi d'avoir accès à notre site qui donne pas mal d'informations sur notre démarche, sur des façons alternatives de cultiver la forêt, sur comment évaluer la quantité de bois. Enfin, on essaie d'y mettre beaucoup d'informations pour nos associés.
D'accord.
Et quand on devient associé, on a accès aussi à la partie associée où là, il y a des informations plus financières, plus techniques et plus secrètes.
On vous remercie.
Mais merci beaucoup de nous avoir reçus.
Bonne continuation, parce que c'est important ce que vous faites.
Et souhaitons longue vie à nos forêts.
Voilà. Et puis, vous revenez quand vous voulez, porte est ouverte.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Et on termine en musique avec Francis Cabrel, Des hommes pareils.
Vous, vous êtes et nous, nous sommes des hommes pareils, plus ou moins nus sous le soleil, même cœur entre les mêmes épaules. Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? Si on y oublie l'essentiel, on partage le même royaume où vous, vous êtes et nous. Nous sommes. Moi j'ai des îles, j'ai des lacs. Moi j'ai trois poissons dans un sac. Moi je porte un crucifix. Moi je prie sur un tapis. Moi je règne et je décide. Moi j'ai quatre sous de liquide. Moi je dors sur des bambous. Moi je suis docteur marabout. Nous sommes des hommes pareils, plus ou moins loin du soleil, blanc, noir, rouge, jaune, créole. Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? S'il y manque l'essentiel, semblable jusqu'au moindre atome, vous, vous êtes. Moi je me teins et je me farde. Moi mes chiens montent la garde. Moi j'ai piégé ma maison. Moi je vis sous des cartons. Moi j'ai 100 ans dans 2 jours. Moi j'ai jamais fait l'amour. Nous enfants, neveux et nièces, on dort tous dans la même pièce. Des hommes pareils, des hommes pareils.
J'aime mieux ce mot polychrome où nous sommes.
Des hommes pareils.